Le journal, Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le Conseil d'État se donne 24 heures avant de rendre sa décision de suspendre ou de maintenir l'arrêté municipal dit anti-Burkini de Villeneuve-Loubet, compte rendu des débats de l'après-midi devant la plus haute juridiction administrative avec Marie-Pierre Véraud. Cette polémique enfle si fort qu'une manifestation est organisée devant l'ambassade de France à Londres. Reportage à suivre d'Éric Albert. En Irak et en Syrie, en l'espace de quelques heures, l'organisation État islamique subit deux défaites. Les experts s'interrogent, Daesh ne semble plus mener les combats autant qu'auparavant. Explication du spécialiste Asni Abidi dans ce journal. L'Italie, où la terre tremble encore violemment 36 heures après le séisme qui a causé la mort d'au moins 240 personnes. Reportage à suivre de notre envoyé spécial Sébastien Baer. Et puis nous irons en Colombie sentir comment est reçu l'accord de paix signé avec la guérilla des FARC après 52 ans de guerre civile et 4 longues années de pourparlers. Dans une allusion, le chef de l'État se positionne sur la polémique autour du burkini. Pour François Hollande, chacun doit se conformer aux règles sans provocation ni stigmatisation. Au même moment, le Conseil d'État se réunissait, saisi par la Ligue des droits de l'homme et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, pour se prononcer sur l'arrêté municipal dit anti-burkini de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, un arrêté semblable à une trentaine d'autres, pris au mois d'août par des maires de stations balnéaires pour interdire le port de ce vêtement de bain intégral sur les plages. Marie-Pierre Véraud, bonsoir.
Bonsoir Ludovic.
Vous avez assisté à cette audience publique au Conseil d'État.
Oui, une audience très suivie. La salle était bondée, ce qui n'est pas tous les jours le cas au Conseil d'État. Mais comme l'ont rappelé les avocats des deux parties, cette question du burkini enflamme le débat politique et médiatique. Si la France est meurtrie par les attentats, ainsi déclaré Maître Spinozzi, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, elle a aussi perdu le sens de la mesure. Le cadre de cette audience, vous l'avez rappelé Ludovic, il s'agit pour les magistrats, qui sont les juges des libertés en France, de dire si l'arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet interdisant de plage les tenues qui ne seraient pas respectueuses des bonnes mœurs et du principe de laïcité, si cet interdit porte une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales. Mais bien sûr, cette décision fera jurisprudence et donc concernera les arrêtés pris par une trentaine de communes à ce jour. Pour l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, le Conseil va en fait dire quelles sont les limites du pouvoir des maires à réglementer le port d'un signe religieux dans l'espace public. Car c'est bien ce dont il s'agit, selon Maître Spinozzi, le burkini, dit-il, c'est tout simplement un voile sur une tenue de bain. Le port d'un signe religieux, quoi qu'on puisse en penser, est l'expression d'une liberté. L'interdire, c'est porter atteinte à cette liberté. La plage, c'est l'espace public, ajoute Maître Spinozzi. Aujourd'hui, l'interdit concerne le domaine maritime. Demain, ce sera peut-être la rue ou les transports, une dérive contre laquelle il met en garde. Avant de relever qu'aucun élément ne démontre qu'il y a eu trouble à l'ordre public avant la prise des arrêtés, les dérives auraient plutôt commencé après, notamment à Cannes. Face à lui, l'avocat de la ville des Alpes-Maritimes défend cette décision, arguant que le pouvoir de police administrative du maire s'exerce justement en amont des troubles et pour les prévenir.
On va écouter donc l'avocat de l'autre partie, Maître François Pinatel, l'avocat de la commune de Villeneuve-Loubet.
Je crois que c'est assez simple. C'est une commune sur le littoral azuréen qui est soumise à des tensions extrêmement vives que tout le monde connaît depuis les attentats du 14 juillet dernier, dans un contexte politique où les tensions étaient déjà extrêmement fortes. Et très très clairement, le port d'un certain nombre de vêtements religieux ostentatoires est vécu par une partie de la population comme une provocation. Et c'est une volonté d'apaiser, en tout cas d'éviter que tout cela ne dégénère. Ce qu'on m'a indiqué, c'est qu'il y avait effectivement un nombre très important de femmes, d'ailleurs je ne sais pas si c'est du burkini, mais enfin qui portaient des vêtements qui étaient ostentatoires. Ça créait un climat de tension extrêmement vif, qui n'a pas dégénéré, mais fort heureusement. On ne va pas attendre quand même que ce soit la catastrophe pour commencer à agir. Et donc cet arrêté a été pris, et depuis, effectivement, comme l'accès à la baignade est interdit, les femmes vont pas sur la plage, et ça se calme, voilà.
Comment est-ce que ça se manifestait, cette tension?
Vous savez, c'est une tension, c'est assez simple. C'est les gens dans la rue, c'est les gens qui parlent, c'est les réflexions, c'est... voilà.
On vient de l'entendre, Marie-Pierre Véraud. Maître François Pinatel, l'avocat de la commune de Villeneuve-Loubet, a tâché de ramener le débat à des enjeux locaux et singuliers.
Oui, pourtant, cette décision du Conseil d'État sera sans limite ni géographique ni temporelle. L'avocat des droits de la Ligue des droits de l'homme a tenu à le rappeler. Vous devez dire le droit et vous abstraire de la polémique pour rester sur une approche juridique, a-t-il rappelé aux juges, avant de leur demander d'être la boussole sur le chemin des libertés. Et peut-être dans une allusion à la position un petit peu ambiguë du pouvoir politique qu'il a relevé d'ailleurs, puisque le ministère public présent n'a pas souhaité s'exprimer, de dire qu'il ne faudrait pas condamner les dérives et permettre l'interdit. Donc il appelle les juges à trancher clairement.
On attend la décision, ce sera demain après-midi à 15h sur la suspension ou le maintien de cet arrêté municipal. Cette polémique estivale, en tout cas en France, autour de ce burkini suscite critiques et railleries hors de nos frontières, beaucoup bien sûr dans le monde arabe, aussi dans le monde anglo-saxon. Exemple outre-Manche à Londres aujourd'hui, Eric Albert, une association musulmane choquée a appelé à manifester devant l'ambassade de France.
Elles sont une trentaine de femmes installées devant l'ambassade de France à Londres et elles ont amené du sable, des bouées et elles se sont mises en maillot de bain pour protester contre l'interdiction du burkini en France. La plupart d'entre elles ne sont pas musulmanes et portent des bikinis, mais elles défendent le droit de porter ce que chacun souhaite. Et ce qui les a vraiment choquées, ce sont les photos de cette femme forcée par des policiers de retirer son burkini sur une plage de Nice. Nabila Faz Guterres.
Je suis horrifiée qu'une femme soit forcée de se déshabiller comme ça, en public. C'est affreux. Le fait qu'elle suive une religion ou non n'a rien à voir dans cette histoire. Que n'importe quelle femme soit forcée de se déshabiller comme ça, en public, et les gens qui approuvent bruyamment autour, tout ça me rend malade.
Et puis, alors que la petite manifestation se poursuit, soudain, ça. Une femme fait irruption, criant sa colère. Elle est française, de parents algériens, vivant à Londres depuis très longtemps. Et pour elle, le burkini est une régression. Cette manifestation est indécente.
Moi, ça m'émeut, parce que, mais en plus de venir de pointer le doigt à la France, mais la France, elle ne doit pas être isolée. Ben, je dis que c'est pas nécessaire et que c'est manipulé, c'est de la manipulation par les médias.
Cette opinion est pourtant ultra minoritaire au Royaume-Uni, où il est courant de voir des policières voilées par exemple, et où le vêtement religieux ne provoque pas vraiment de débat.
Reportage à Londres d'Éric Albert. Les journées d'été des Verts, ça se passe en Bretagne, à Lorient, avec chez les écolos une primaire à venir, ce sera la fin octobre. Primaire décidée après le renoncement de Nicolas Hulot. Michel Rivasi, Yannick Jadot, Cécile Duflot, Karim Adeli ont déjà dévoilé leurs ambitions pour ces candidats putatifs. Le temps presse, il leur reste quelques jours à peine pour rassembler les parrainages. Autre primaire à venir, ce sera un mois plus tard en novembre, celle de la droite. Là, il reste un petit peu plus de temps pour récolter les parrainages. Guère plus, la date limite c'est dans 15 jours, d'où ce matin l'appel de Nathalie Kosciusko-Morizet qui explique avoir récolté 2/3 des 500 signatures requises. NKM se dit optimiste. Il y a un an, il était exclu du Front National qu'il avait fondé. Jean-Marie Le Pen menace de présenter ses propres candidats aux législatives de juin prochain pour que s'exprime, dit-il, le courant de valeurs nationales et patriotiques. En creux, une critique à la stratégie et à la voie choisie par sa fille à la tête du FN. Les producteurs laitiers maintiennent la pression au quatrième jour de blocage du numéro 1 mondial du secteur en Mayenne à Laval. La négociation a débuté tout à l'heure à Paris sous l'égide d'un médiateur. D'un côté, les représentants des éleveurs, de l'autre, ceux du groupe Lactalis. L'objectif est de parvenir à avancer sur la question du prix d'achat du lait. En France, un producteur sur 5 travaille pour Lactalis. En Irak, la bataille lancée cette semaine à Kaïra au nord était qualifiée de dernier verrou avant l'assaut sur la deuxième ville du pays, le fief irakien de l'organisation État islamique, la ville de Mossoul. Cette bataille a été remportée ce soir par les forces irakiennes et la coalition internationale de façon très rapide. Idem en Syrie, toujours contre Daesh. Là, ce sont les rebelles appuyés pour la première fois par l'armée turque qui les ont délogés en 24 heures à peine dans la ville frontalière de Jarablus. Deux batailles couronné de succès en un temps record. Cela a étonné tous les experts qui ont en mémoire des batailles longues de Kobané ou de Manbij. Nabila Hamel a donc sollicité sur ce point Hasni Abidi. Il dirige le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
C'est vrai qu'il y a une similitude dans le scénario de la chute de plusieurs villes, à la fois en Irak mais aussi en Syrie. Cela s'explique d'abord parce que le groupe de l'État islamique est en déclin. Il est en difficulté depuis plusieurs mois, difficultés financières, militaires, mais aussi parce qu'il y a une volonté ferme cette fois-ci de la part du gouvernement irakien à reconquérir les espaces perdus au profit de l'État islamique et parce qu'il y a un changement de donne régionale et en Syrie, bien entendu, avec l'engagement cette fois-ci de la Turquie, l'État islamique recule devant l'avancée des forces rebelles, des autres insurgés soutenus par les pays de la région et notamment par la Turquie. Il faut savoir aussi qu'en Irak et dans le cas de Kayara, le gouvernement irakien est beaucoup plus mobilisé. C'est plutôt le service contre le terrorisme et la 9e division de l'armée irakienne sont les politiques qui a pris l'initiative de libérer cette ville en commençant au mois de juillet par libérer l'aéroport avec un soutien massif de la coalition et de notamment des États-Unis. Et donc la chute de cette ville qui est importante, elle n'est pas loin de Mossoul, quelques 50 kilomètres, était presque acquise pour l'armée irakienne, ce qui donne de l'espoir à cette armée pour se préparer à la mer des batailles, celle de Mossoul.
Le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Hasni Abidi. Restons dans la région et sur le conflit syrien particulièrement. Deux éléments supplémentaires à retenir ce soir. D'abord, au nord, les forces kurdes se retirent à l'est du fleuve Euphrate, conformément à l'exigence des Turcs qui voyaient d'un très mauvais œil leur expansion territoriale. Et puis ce rapport des Nations Unies attendu sur l'utilisation des armes chimiques en 2014 et 2015 de façon certaine, dit l'ONU. Deux attaques sont attribuées au régime de Bachar al-Assad et une autre au gaz moutarde par les forces de l'État islamique. Paris veut ce soir une réponse ferme du Conseil de sécurité de l'ONU. Des preuves de crimes ont été apportées, déclare ce soir François Hollande, d'où la nécessité, poursuit-il, de ne pas entretenir les belligérants. Et c'est une responsabilité qui pèse sur la Russie. Le chef de l'État met aussi en garde les Turcs après leur offensive lancée côté syrien. On l'évoquait à Jarablus. François Hollande qui s'exprimait depuis la Selle Saint-Cloud, tout près de Paris, où il réunissait tous les dirigeants sociaux-démocrates du continent européen. Objectif: relancer l'Europe après le coup dur du Brexit au mois de juin, des Européens qui se retrouveront pour un sommet extraordinaire. Ce sera à Bratislava dans une quinzaine de jours. Un sommet parisien ce soir sans Matteo Renzi, retenu en Italie par la catastrophe qui a touché le cœur de son pays. Là, il pourrait y avoir, dit-on ce soir, davantage de victimes que lors du séisme de L'Aquila il y a 7 ans. 250 morts ce soir, 36 heures après que la terre a tremblé. Et toujours ces répliques intenses, violentes, pendant que les secours s'activent. Reportage dans le village d'Amatrice, Sébastien Baer.
Sous les tentes dressées le long de l'une des voies d'accès à Amatrice, on entrepose les dons, on organise l'aide, la logistique. Les denrées arrivent ici par camions entiers de tout le pays. Par dizaines, les bénévoles affluent aussi dans le village pour aider à déblayer les routes ou pour fouiller les décombres, comme Gino, venu avec son chien.
Il a des immeubles tout faits sur eux. Donc s'il y a des secousses et il tombe, nous on reste au milieu. On peut risquer notre vie, on essaye de risquer le minimum possible.
On croise à Amatrice beaucoup de bénévoles venus de la région de L'Aquila, touché par le séisme de 2009, le commandant Giovanni Covielli, qui dirige le corps forestier de la province, n'est guère surpris de cet élan de solidarité.
Nous avons de nombreux tremblements de terre, donc chacun sait ce que c'est que de se retrouver dans cette situation. Et L'Aquila, c'est très proche, donc les gens de là-bas se sentent redevables de l'aide que les gens leur avaient apportée à l'époque.
Mais la distribution de l'aide connaît quelques ratés. Laura, qui a perdu sa maison, ignore encore où elle dormira la nuit prochaine.
J'ai dormi dans ma voiture la nuit dernière. Il faisait 10 degrés. On a besoin de tout ici. Pour l'instant, on ne m'a donné que des couvertures. J'ai vraiment besoin d'un endroit où dormir, d'une tente, de n'importe quoi, et aussi de pouvoir me laver.
Mais de nouvelles tentes sont arrivées cet après-midi et un responsable de la logistique promet que chacun dormira à l'abri ce soir.
Reportage signé Sébastien Baer et Eric Audra. Après 52 ans de conflit et 4 longues années de négociations, un accord de paix a été signé. La Colombie vit donc un jour historique. Le président conservateur Juan Manuel Santos et le leader guérillero marxiste Timoshenko mettent un terme à cette guerre civile et ses centaines de milliers de morts, de disparus, de déplacés. Un accord historique accueilli par les vivas en Colombie la nuit dernière, accueilli aussi aujourd'hui avec certaines réserves ou critiques. Marie-Ève de Teuf nous appelle de Bogota.
La paix ne fait pas l'unanimité. Au centre et surtout à gauche de l'échiquier politique, les gens applaudissent. Mais la droite dure, elle, est très critique. Et elle surfe sur la haine qu'inspirent les FARC à une bonne partie de l'opinion publique. L'ex-président Alvaro Uribe accuse le gouvernement d'avoir trop cédé à la guérilla. À l'écouter, le pays serait désormais la proie du castro-communisme ou du castro-chavisme. Plus sérieusement, les uribistes considèrent inacceptable que des guérilleros coupables de crimes atroces puissent échapper à la prison ou, pire, être élus au Congrès. Sur ce point, les opposants sont rejoints par la très sérieuse organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui, tout en célébrant l'accord de La Havane, s'inquiète du risque d'impunité. Alors, plusieurs réponses à ces critiques. Celle du président Santos, d'abord. Les FARC n'ont pas été détruites militairement et aucun chef guérillero ne négocie pour finir en prison. La réponse d'Umberto de Lacalle, ensuite le chef des négociateurs. L'accord n'est pas parfait, mais c'est le meilleur accord possible. Enfin, la réponse des organisations locales de défense des droits de l'homme qui disent « la guerre est le plus grand facteur d'impunité ».
Marie-Ève Deteuf à Bogota en Colombie. Une chevelure rousse, une frange tout près des yeux et ce costume, toujours cette robe de noire, c'était le talent, le costume de Sonia Riquel que la France a malheureusement perdu aujourd'hui. Le décès d'une des plus grandes couturières, 86 ans, des suites de la maladie de Parkinson, maladie qu'elle évoquait dans un livre il y a 4 ans. Le temps de demain, vendredi 26 août, le soleil, la chaleur, toujours avec la canicule dans 37 départements, vous allez l'entendre dans un instant, le quart nord-est du pays est sous cette chaleur écrasante jusqu'à demain soir, nous dit Météo France. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 22h, ce sera Stanislas Vazac.